programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 14 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Plusieurs blessés au Cameroun dans l'explosion d'une bombe dans un bar de Yaoundé. En République démocratique du Congo, des gestionnaires de fonds de lutte contre le coronavirus accusés de mauvaise gestion ont été traduits en justice. En Côte d'Ivoire, l'autorité nationale de la presse accuse les médias de contribuer à l'enlisement de la crise politique. Covid-19, les États-Unis enregistrent plus de 50 000 nouvelles contamination en deux jours. Le gouvernement promet un vaccin gratuit. Les alliés d'Israël se réjouissent de l'accord entre Abu Dhabi et l'État hébreu. Les réactions sont mitigées dans le monde arabe. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Cameroun, l'explosion d'une bombe artisanale a fait plusieurs blessés à Yaoundé, dans un bar près du marché populaire de Mokolo. Le point avec notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
D'après des témoins, la bombe artisanale a explosé vers 12h temps universel. Des tables, des chaises et une partie du plafond ont été endommagées dans le bar où l'explosion s'est produite. Au moment de la déflagration, seules deux personnes se trouvaient dans cette buvette située au lieu dit Batalonkak, dans le périmètre du marché le plus fréquenté de Yaoundé. Maurice Yonke est le gérant du bar en question.
Directement quand j'ai senti, je suis sorti pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et selon le colmorceur qui me montre la batterie en bas de la table.
Un riverain qui a observé la scène juste avant l'explosion dit avoir aperçu un homme déposer un sac à l'entrée du bar.
Il y a un gars qui est là-haut venu avec son sac. Il buvait là. Il a acheté une cigarette. C'est le même produit, même là où il a déposé.
L'engin explosif improvisé a été fabriqué à l'aide d'une batterie de moto. Le gouverneur de la région du centre, dont Yaoundé est le chef-lieu, la police scientifique et une équipe de démineurs sont arrivés sur les lieux et exhortent les populations à plus de vigilance. C'est la quatrième bombe artisanale qui explose dans la capitale depuis le mois de juin, faisant suite à ces explosions, dont l'une au quartier Imana, non loin de l'une des entrées du palais présidentiel, des fouilles corporelles sur la voie publique et les bouclages inopinés de certains quartiers ont été instaurés à Yaoundé. Les forces de défense et de sécurité recherchent des suspects en possession de drogue, d'armes à feu ou d'engins explosifs. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Dans un communiqué, l'ONU condamne la violence au Cameroun après des rapports faisant état de graves violations des droits humains, dont le meurtre brutal d'une jeune femme à Mouyouka dans le sud-ouest du pays. L'ONU appelle les autorités à ouvrir rapidement une enquête sur ces allégations et à faire en sorte que les responsables soient traduits en justice et appelle tous les acteurs armés à s'abstenir d'attaquer des civils. En République démocratique du Congo, des gestionnaires de fonds de lutte contre le coronavirus accusés de mauvaise gestion ont été traduits en justice, a indiqué l'inspection générale des finances. Le point avec Eddy Issango.
Selon le nouvel inspecteur des finances, Jules Alinguete, la justice congolaise pourra interpeller dans les prochains jours les personnes impliquées dans l'effet de mégestion caractérisée des fonds destinés au Covid-19. L'inspection générale des finances qu'il dirige dépend directement du président de la République qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Le 17 juillet, les gouvernements congolais avaient annoncé un audit dans l'équipe chargée de la lutte contre les Covid-19. Cette structure chapeautée par les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba et gérée par les ministres de la Santé Teni Longondo, épaulée d'une équipe d'experts dirigée par le professeur Jean-Jacques Muyembe. Le 20 juin, le docteur Muyembe a affirmé avoir reçu 1,4 million de dollars pour lutter contre les nouveaux coronavirus, alors que le premier ministre congolais avait déclaré au sénateur avoir décaissé 10,17 millions. De son côté, le ministre de la Santé a déclaré avoir eu la gestion des 3 millions de dollars. La RDC a officiellement recensé 9604 cas de Covid-19 et 238 décès.
Au moins 6 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire après 3 jours de violence liées à l'annonce à la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Un précédent bilan faisait état de 4 tués à Daoukro et Bonoua. À Gagnoa, des heurts ont fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé la police, et des violences se sont poursuivies à Daoukro, faisant un mort supplémentaire. L'Union européenne discute avec les autorités algériennes de la condamnation du journaliste Khaled Drareni. Nous suivons avec préoccupation la situation du journaliste condamné à 3 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, a déclaré le bureau du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, rappelant son engagement pour la liberté de la presse. La justice du Malawi a ordonné l'arrestation de 17 policiers et condamné la police à indemniser 18 femmes et filles victimes d'agressions sexuelles par les forces de l'ordre lors de la répression des manifestations à Lilongwe en octobre 2019. Les plaignantes avaient poursuivi en justice le gouvernement en s'appuyant sur un rapport de la Commission des droits humains du Malawi. Du fioul a recommencé à s'écouler du bateau échoué depuis 3 semaines au large de l'île Maurice. Le navire appartenant à un armateur japonais s'est échoué le 25 juillet sur un récif à la pointe d'Esni avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord. Près de 1000 tonnes ont souillé les côtes des espaces protégés avec des forêts de mangroves et des espèces menacées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à une résurgence des cas de Covid-19 dans plusieurs pays, les efforts se multiplient pour contenir la pandémie. Les États-Unis, pays le plus touché, promettent un vaccin gratuit. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Plus de 50 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées aux États-Unis pour la 2e journée consécutive et la Californie est devenue le premier État à atteindre les 600 000. L'administration Trump a annoncé la distribution gratuite aux Américains d'un vaccin dès que son autorisation sera faite. En Amérique centrale, le président mexicain a assuré que le vaccin anglo-suédois AstraZeneca sera prêt dès le premier trimestre 2021. En Europe, face à une nouvelle hausse des cas, le Royaume-Uni impose une quarantaine à l'arrivée de certaines régions de France où la situation continue de se dégrader. L'Espagne referme les discothèques et interdit de fumer dans la rue à moins de 2 mètres. La Nouvelle-Zélande a prolongé le confinement à Auckland. À l'inverse, la Corée du Nord lève le confinement à Kaesong, une ville à la frontière, après un cas suspect. Et Pyongyang affirme toujours ne pas avoir enregistré de cas sur son territoire.
L'annonce d'un accord pour la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël suscite de nombreuses réactions. Les alliés d'Israël s'en félicitent, tandis que les réactions sont mitigées dans le monde arabe. Mohamedou Oumfa.
Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cet accord marque une nouvelle ère dans les relations entre Israël et le monde arabe. Même son de cloche aux États-Unis. Il s'agit d'une percée spectaculaire, a commenté le président Donald Trump. Les États-Unis espèrent que ce pas audacieux sera le premier d'une série d'accords clôturant 72 années d'hostilité dans la région, a appuyé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Par contre, l'accord est dénoncé par les Palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a demandé une réunion d'urgence de la Ligue arabe afin qu'elle se prononce sur ce que le Hamas qualifie de trahison d'un pays arabe. Une stupidité stratégique qui renforcera l'axe de la résistance, a réagi le ministère iranien des Affaires étrangères. La Turquie menace de suspendre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. L'ONU préfère rester prudente. Son secrétaire général, Antonio Guterres, espère que l'accord pourra créer une occasion pour les dirigeants israéliens et palestiniens de reprendre des négociations substantielles débouchant sur une solution à 2 États.
L'Union européenne a donné son feu vert pour sanctionner la répression au Bélarus après la réélection du président Alexandre Loukachenko. L'Union européenne va maintenant lancer un processus de sanctions contre les responsables des violences, arrestations et fraudes liées à l'élection, a annoncé la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Ann Linde, à l'issue d'une visioconférence avec ses homologues. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Le gouvernement guinéen, à travers l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, a lancé jeudi le plus grand programme de transfert monétaire en Afrique pour les populations pauvres et vulnérables. L'opération va concerner globalement 240 000 ménages, soit 1,5 million de Guinéens. Chaque ménage recevra mensuellement pendant une première phase de 6 mois la somme de 250 000 francs guinéens. La Guinée doit tenir le 18 octobre une élection présidentielle. Plus d'un quart des travailleurs nigérians sont au chômage au deuxième trimestre d'après le Bureau national des statistiques dans les premières données sur le chômage publiées depuis 2018. Le taux de chômage s'est établi à 27,1% au deuxième trimestre. Il s'élevait à 23,1% dans le précédent rapport qui remonte au troisième trimestre 2018. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 34 ans est le plus élevé, soit 34,9%. En République démocratique du Congo, les bons du Trésor public lancés le 11 août 2020 sur le marché financier intérieur n'ont ramené que 10 milliards de francs congolais estimés à 5 millions de dollars américains pour la deuxième tranche de cette opération. Le gouvernement espérait lever 17,5 millions de dollars américains, d'où une réalisation de 28,75%.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Toby Junior était parti en Chine pour des études, mais l'attaquant ivoirien a décroché son premier contrat de footballeur professionnel à l'âge de 25 ans, rejoignant le mois dernier Jiangxi Liangsheng en Ligue 1 chinoise. Il a brandi fièrement son contrat de 6 mois. Le périple de Junior de l'Afrique de l'Ouest à la Chine n'a pas été facile, ponctué notamment par un procès avorté en Grèce et un passage en Angleterre. Selon son récit, Junior a quitté la Côte d'Ivoire pour la Chine en 2014 pour apprendre la langue et étudier tout en poursuivant son rêve de devenir footballeur, ce qui est maintenant un fait. L'ex-dirigeant du club de rugby de Toulon, Mourad Bouyelal, candidat au rachat de l'Olympique de Marseille avec Mohamed Haroudji, a indiqué ce vendredi qu'il se mettait en retrait de l'offre tant que les deux communicants de l'homme d'affaires franco-tunisien restaient associés au projet. Ça ne veut pas dire que j'abandonne le projet, nuance toutefois l'ancien président du rugby club toulonnais proposé pour prendre la présidence du club en cas de rachat, une hypothèse toutefois maintes fois écartée par la direction de l'OM qui martèle depuis des mois ne pas vouloir vendre. Les victimes présumées et des témoins des viols qui auraient été commis par le président de la Fédération haïtienne de football font l'objet de menaces alors que la suspension provisoire du dirigeant arrive à terme, dénonce vendredi Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits humains indique dans un communiqué que les témoins avaient reçu, je cite, des promesses de grosses sommes d'argent ou d'emploi en échange de leur silence, fin de citation, et que des hommes armés auraient été, je cite, envoyés pour surveiller leur maison ou leur lieu de travail. Des hommes non identifiés se sont présentés au domicile d'un témoin en Haïti alors que personne n'était présent et ont commencé à tirer sur la maison et à la piller, précise Human Rights Watch, selon des jeunes filles citées dans un article publié fin avril dans le journal The Guardian. Yves Jean-Bart, 72 ans, président de la Fédération haïtienne de football, aurait violé de nombreuses jeunes mineures ces dernières années. Et puis pour terminer, Paul Pogba veut prolonger à Manchester United. L'avenir du français au sein du club anglais sera évoqué après la Ligue Europa, qualifiée pour les demi-finales de la compétition européenne. Manchester United affrontera le FC Séville ce dimanche soir à Cologne, en Allemagne, selon les informations de Sky Sports.
Merci beaucoup, Bagassi, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Des heurts ont eu lieu hier à Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire entre forces de l'ordre et manifestants. Au moins 6 personnes sont mortes dans ces violences liées à la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. La situation se tend de plus en plus à l'approche du scrutin du 31 octobre. Éric Manirakiza a joint le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikawe, directeur de campagne d'Henri Conan Bédier.
Il y a eu une défaillance de l'État qui n'a pas encadré les populations qui manifestent pacifiquement aux mains nues, arguant qu'aucune information ni demande n'avait été faite. C'est tout à fait faux. Depuis le 10 août, la société civile qui organisait la manifestation est mise en règle. Donc les gens n'ont pas dit la vérité. Et des personnes, des miliciens se sont introduits pour blesser des personnes. Il y a eu beaucoup de blessés, surtout 4 morts, deux à Daouko, un à Benoît et puis un autre dans une zone. Donc, et c'est surtout pas les élections, c'est le fait que le président de la République veut briguer un troisième mandat qui pose problème, et également la mauvaise conduite du processus électoral par la commission électorale indépendante. D'ailleurs, nous avons demandé la démission du président de la commission qui a été incapable de faire une bonne liste électorale, et également l'audit international de la liste électorale 2020.
Si vos doléances ne trouvent pas satisfaction, est-ce que le PDCI n'ira pas aux élections?
Non, mais dans tous les cas, si on doit faire les élections, nos doléances vont avoir satisfaction, d'autant plus que la Cour africaine des droits de l'homme qui a statué sur la commission électorale indépendante donne des recommandations. Et ce sont des ordonnances plutôt qui doivent être exécutées avant toute élection. Donc si le gouvernement s'entête et n'exécute pas les ordonnances, il n'y aura pas d'élection.
C'est-à-dire?
Sinon, nous sommes prêts à aller aux élections. On demande seulement à l'État de Côte d'Ivoire d'exécuter les ordonnances et de mettre la commission électorale en jour comme demandé par les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a pris un arrêt le 15 juillet dernier.
Oui, vous demandez notamment au président Ouattara de renoncer à sa candidature, mais s'il la maintient, il devrait être investi par son parti bientôt.
Être investi par son parti n'avait rien dit en matière de candidature. Il y a des recours, donc la population veut marcher, veut protester dans les voies légales, démocratiques et constitutionnelles pour l'amener à renoncer à cela. Même s'il est investi par son parti, ça n'a aucun sens.
Est-ce que la Côte d'Ivoire risque une autre crise?
Ça dépend du président Alassane Ouattara. S'il ne retire pas sa candidature, il y aura une crise. D'ailleurs, la crise est là. Il y a des morts d'hommes. C'est déjà une crise. On est à pleine crise préélectorale. Vous me donnez l'occasion de noter une autre surprise devant le silence assourdissant de la communauté internationale. Parce que avant, quand les autres étaient au pouvoir, pour moins que rien, la communauté internationale avait déjà réagi. Donc, c'est un mauvais signal que la communauté internationale passe à la population par son mutisme.
Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI d'Henri Conan Bédier, était joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Niger, 33 personnes sont décédées lors des inondations causées par les fortes précipitations qu'enregistre le pays ces dernières semaines. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires, OCHA, a annoncé d'importants dégâts. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdoulrazak Idrissa.
La dernière situation des dégâts causés par les inondations a été donnée par le ministère chargé de l'action humanitaire, Madame Mariama Oumarou Dangaladima, directrice des secours humanitaires.
À la date du 10 août, nous avons au plan national 10 630 ménages sinistrés, avec donc 88 772 personnes sinistrées. Malheureusement, on déplore 33 pertes en vies humaines suite aux noyades et au choc des maisons effondrées. Donc, comme maisons effondrées, nous avons 9112 maisons à date. Nous avons enregistré des dégâts sur le plan de l'élevage avec 363 gros ruminants, 2092 petits ruminants. Nous avons des classes effondrées. Nous avons la situation des mosquées. Nous avons la situation des greniers endommagés, jusqu'à plus de 300 greniers. Nous avons des puits endommagés, des champs et des aires de culture.
Presque toutes les régions du pays sont concernées par ces inondations. La capitale Niamey reste cependant plus exposée avec la montée inquiétante du niveau des eaux du fleuve. Mohamed Al-Housseini, directeur de l'hydrologie au ministère de l'Hydraulique.
À la date du 12 août 2020, donc la crue a atteint et dépassé le seuil critique qu'on appelle la cote d'alerte rouge au niveau de la station hydrométrique de Niamey. Donc, en tout cas, les niveaux sont en train de monter très, très rapidement. Hier matin, on était à 630 cm. Et hier, vers 16h, la station automatique de Niamey nous a transmis les données. On était à 635 cm. Donc, le niveau est en train de monter très, très rapidement. C'est des niveaux jamais observés par le passé. Même en 2012, qui était l'année la plus humide, ces 50 dernières années, on avait eu 618 cm. Donc, en ce temps, on n'avait pas les digues qui sont en amont du coin Kennedy. Il y a urgence. Quand on dit que l'alerte est rouge, donc il y a urgence vraiment d'évacuer toutes les zones inondables.
Rappelons qu'en 2019, à la même période, plus de 200 000 personnes ont été impactées par les inondations causées par les fortes précipitations, avec une soixantaine de décès. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Retour sur l'annonce jeudi par le président américain Donald Trump de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Dans une déclaration conjointe, M. Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Mohamed Al-Nayan, prince héritier d'Abu Dhabi, ont dit espérer que cette percée historique fera progresser la paix au Moyen-Orient. Patsy Widakuswara, correspondante à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de John Linton.
Les musulmans émiratis pourront bientôt prier dans la célèbre mosquée Al-Aqsa de Jérusalem après l'annonce de la normalisation des relations entre leur pays et Israël. À la Maison Blanche, le président Donald Trump s'en est réjoui.
Maintenant que la glace est brisée, je m'attends à ce que davantage de pays arabes et musulmans suivent l'exemple des Émirats arabes unis.
L'accord avec les Émirats arabes unis, accord d'Abraham, selon la Maison Blanche, est le troisième conclu par Israël avec un pays arabe depuis sa création en 1948. Avant cela, il y a eu ce signé avec l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé hier de journée historique, un sentiment que partagent les responsables de l'administration Trump, Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale.
Cela ne me surprendrait pas si le président était finalement nominé pour le prix Nobel.
Concernant l'importance de cet accord, William Tubman, du Centre d'études stratégiques et internationales, émet un léger bémol.
Ce qui est d'un pas vers la paix régionale, je pense que c'est un peu exagéré. Il n'y a jamais eu de menace de conflit entre Israël et les Émirats arabes unis. Mais c'est le premier État du Golfe à normaliser ses relations avec Israël. Et cela va ouvrir beaucoup de nouvelles possibilités pour les deux pays.
Dans le cadre de cet accord, Israël a accepté de suspendre toute nouvelle annexion de terres palestiniennes en Cisjordanie. Selon les analystes, cesser les annexions profite stratégiquement à Israël, car il ne va pas absorber un nombre significatif de Palestiniens contre leur gré. William Ouchler, du centre Rafik Hariri pour le Moyen-Orient.
Cela met Israël sur le long terme dans une position terrible à choisir entre son identité juive ou son identité d'État démocratique libéral. C'est une situation où aucun ami d'Israël ne souhaiterait le voir sur le long terme.
L'accord vise à isoler davantage une autre puissance régionale, l'Iran. Les États-Unis tentent de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger l'embargo sur les armes contre Téhéran qui expire en octobre prochain. La Chine et la Russie ont indiqué qu'elles vont y mettre leur veto. Si la résolution ne passe pas, le secrétaire d'État Mike Pompeo menace d'invoquer l'option snapback qui rétablirait toutes les sanctions contre l'Iran. Et que signifie l'option snapback sur l'Iran ? Le président Trump n'a pas voulu entrer dans les détails.
Nous n'allons pas vous en parler. Nous allons travailler sur quelque chose et ensuite nous parlerons une fois que ce sera terminé. Mais ce sera très satisfaisant.
M. Trump a déclaré que les Émirats arabes unis et Israël se joindront aux États-Unis dans les prochaines semaines pour signer officiellement cet accord, ici même à Washington.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'actualité en continu sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bon week-end à toutes et à tous.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Pendant des années, les États-Unis ont adressé une simple demande à la République de Chine. Mettre un terme à ces activités criminelles, coercitives et néfastes aux États-Unis. Pendant des années, le gouvernement chinois a refusé de le faire. Face à cette intransigeance, le département d'État a fermé le consulat chinois de Houston au Texas, suite à des tentatives de transférer illégalement des données de recherche médicale d'institutions de la région, de persuader plus de 50 chercheurs, professeurs et universitaires de la région à fournir des informations aux institutions chinoises et de faire pression sur le ressortissant chinois vivant aux États-Unis et considéré par le gouvernement chinois comme des opposants politiques pour qu'ils retournent dans leur pays. Les activités du consulat chinois de Houston sont allées bien au-delà de ce que les États-Unis sont disposés à accepter de la part du corps diplomatique étranger. La décision de l'administration d'ordonner la fermeture du consulat de la République populaire de Chine à Houston n'est que la dernière d'une série d'actions des États-Unis visant à contrer le comportement agressif du Parti communiste chinois. Pendant des années, Pékin a bénéficié du libre accès à la société américaine sans réciprocité pour les diplomates américains en poste en Chine. Ceci est inacceptable. Ce n'est pas qu'aux États-Unis que les missions diplomatiques chinoises abusent de leur séjour. Le vol de la propriété intellectuelle et l'espionnage sont une menace mondiale croissante. 11 chefs d'accusation retenus récemment par la justice américaine contre Ling Xiaoyong et Dong Jiaji révèlent qu'ils conduisaient depuis plus de 10 ans une campagne de piratage visant les compagnies des pays de haute technologie, y compris les États-Unis, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, la Lituanie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Corée du Sud, la Suède et le Royaume-Uni. Chaque chef d'accusation expose comment la République populaire de Chine s'appuie sur un comportement illégal clandestins, coercitifs et corrompus pour tenter d'imposer sa volonté au monde en vue de s'arroger un injuste avantage dans ses relations économiques et diplomatiques. Les récentes actions prises par le département d'État vis-à-vis de la République populaire de Chine sont un effort visant à placer la relation États-Unis-Chine sur la base solide de la justice, du respect et de la réciprocité. Le président Trump a dit « c'est assez » au comportement inacceptable de la République populaire de Chine aux États-Unis. Le secrétaire d'État Mike Pompeo l'a souligné durant ses récents voyages européens. Nous fixons des attentes claires quant à comment le Parti communiste chinois devra se comporter et lorsqu'il ne s'y conforme pas, nous prendrons des actions qui protègent le peuple américain, protègent notre sécurité, nationale, et protègent notre économie et nos emplois.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.